Radio Spirale. En novembre 2011, le CRILC recevait la romancière montréalaise Gail Scott. À une époque où l'expérimentation formelle n'était pas une priorité, Scott a cependant tenu le cap pour produire depuis 25 ans une œuvre dont on commence à peine à prendre la mesure. Partant d'une discussion autour de son plus récent roman, Gail Scott discute ici avec Liane Moyes des questions de style, de forme et de subjectivité qui animent sa pratique d'écriture. La rencontre avait lieu à la librairie Olivieri.
Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre organisée par le CRILC avec Gail Scott. Gail Scott est l'auteur de 8 livres, y compris 2 romans qui viennent paraître, The Obituary et My Paris. My Paris chez Heliotrope, The Obituary chez Coach House. Elle est également l'auteur des romans Heroine et Main Brides, du recueil de nouvelles Spare Parts Plus 2 et de Spaces Like Stairs. Elle a co-dirigé l'anthologie Biting the Error, Writers Explore Narrative avec Robert Gluck. Gail Scott a aussi co-fondé les revues littéraires Tessera, Spiral et le Narrativity Web Journal au Poetry Center de San Francisco State University. Elle enseigne la création littéraire au département d'études anglaises à l'Université de Montréal. The Obituary, son plus récent roman, a été finaliste au Grand Prix du Livre de Montréal. Pour reprendre les mots de Catherine Leclerc, l'inclusion récente de textes de langue anglaise dans le canon littéraire québécois doit beaucoup à l'œuvre de Gail Scott et à ses résonances avec la littérature québécoise d'expression française. Je ne sais pas si vous me connaissez, je suis Liane Moyes, je dirige le département d'études anglaises à l'Université de Montréal et j'ai dirigé en 2002 un recueil d'essais sur l'œuvre de Gail Scott chez Guernica. Alors, je commence avec des questions d'ordre général. Gail, je sais que tu as passé quelques jours à New York au mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe à New York, surtout dans le milieu de la poésie?
À quel niveau?
Oui, beaucoup se passe à New York.
Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ici sait que tout artiste ou écrivaine profite beaucoup d'aller visiter la grande ville au sud de temps en temps. Moi, ça fait quelques années que j'y vais très souvent, probablement plus depuis... En 2008, j'ai eu la grande chance annuelle de gagner la bourse pour le studio du CRILC à New York. C'est un studio magnifique à Soho. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Puis ça me donne 6 mois toutes dépenses payées, comment on dit en anglais, toutes subventionnées à New York. Et à cette époque, je commence à beaucoup fréquenter le milieu de poésie de ce qu'on appelle Lower Manhattan. Et j'étais vraiment ravie de trouver à quel point les recherches se ressemblent beaucoup à ce qu'on faisait, enfin ce que moi je faisais, puis ce qu'on avait déjà vu ici. Puis d'abord, une des choses qui est magnifique, c'est qu'on peut aller à plusieurs magnifiques lectures par semaine. Il y a deux lieux de St. Mark's Poetry Project où il y a constamment les événements de la poésie. D'ailleurs, le jour de l'an, c'est comme les anciennes nuits blanches de la poésie ici, et ça fait des années que c'est comme ça. On lit la poésie pendant 24 heures et c'est vraiment, vraiment fun. Patti Smith vient des fois. Il y a quand même des noms un peu connus, mais c'est vraiment les poètes de cet endroit-là. Puis aussi le Bowery Poetry Club où il y a des événements à tous les soirs. C'est beaucoup de performances et musique maintenant, et spoken word aussi. Et puis samedi après-midi, c'est de rigueur. Il y a vraiment une lecture de poésie vraiment fun où on y va souvent. Donc j'ai commencé à discuter avec les gens là-bas. Puis comme j'écris en anglais et comme ici, j'ai tendance à plus fréquenter comme amis écrivaine le milieu francophone. Je trouvais que le milieu là-bas se ressemble plus côté francophone que côté anglophone, et j'ai commencé à fréquenter beaucoup, surtout les gens qui font des recherches en prose, parce que je me vois comme une écrivaine de prose expérimentale, et il y a vraiment les choses, le fun qui se passe là-bas.
Je lisais un peu hier à propos de la conceptual poetry et la conceptual fiction, c'est-à-dire la fiction qui illustre un concept au lieu de raconter une histoire. La fiction qui teste les limites de ce qui est lisible et de ce qui n'est pas lisible. Alors, je me suis posé la question, est-ce que tu te situes en fait d'une certaine façon dans ce mouvement de conceptual fiction?
Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de conceptual fiction. La conceptual poetry est très dans le vent actuellement, donc ce serait peut-être intéressant de m'y associer. Kenny Goldsmith, un des grandes lumières du mouvement, a été invité par Michelle Obama dernièrement à la Maison Blanche. Alors, c'est vraiment intéressant de participer dans ce milieu actuellement. Mais, bon, comment ça existe depuis très, très longtemps, la notion de la poésie conceptuelle. Ce qui est intéressant avec ce groupe à New York actuellement qui font de la poésie, et je vais expliquer pourquoi je ne suis pas là-dedans exactement un peu plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est, je pense, leur insistance sur le côté radical de la du geste poétique, c'est-à-dire que ils travaillent à partir des textes d'habitude empruntés ou des comment dit-on en français, les moteurs de recherche virtuels, ok, les moteurs de recherche électroniques. Il y en a même qui en inventent leur moteur. Christian Buck, qui est canadien, mais qui fréquente ce milieu, fait ça. Ou bien on emprunte des textes, des documents, comme des documents de la cour, par exemple, comme Vanessa Place de Los Angeles, qui aussi fait partie de ce milieu. Bref, on prend le langage des autres textes, des autres livres, et on utilise à son gré. Et ce qui est très radical dans ça, à mon avis, c'est de refuser complètement le côté lyrique de l'écriture. Donc le jeu vient un jeu composé ou presque absent, mais quand même présent, dans le sens qu'on fait une sélection quand même des textes et de la façon de les utiliser. Et donc le jeu écrivain devient une espèce de partie composante des textes complètement des autres, souvent trouvés par hasard. Il me semble que toute écrivaine fait ça un peu. C'est sûr que moi, dans la prose que je fais, il y a beaucoup, beaucoup de textes des autres écrivaines, des conversations, des voix. Quand j'écris, quand je suis un peu coincée, j'ouvre l'Internet ou j'ouvre un livre et puis je prends une phrase et puis je continue. Donc, c'est... C'est sûr que ça change les choses, ça change un peu la scène poétique de façon assez intéressante. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans ma démarche à moi-même, c'est que je cherche, dans le roman, je suis avant tout, je pense, romancière, et Dieu sait que le roman est une forme peut-être un peu stagnante actuellement, qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Ça change un petit peu, petit à petit, mais surtout le rapport entre sujet écrivain, narrateur, narration, l'acteur n'a pas beaucoup changé, et je cherche dans ce que j'écris de troubler ces rapports-là et de penser à la voix qui parle, le jeu comme une espèce de construction d'une composition faite non seulement de ses élans personnels puis sa vie ou son histoire d'amour mal tournée, mais comme une espèce de composition qui comprend le social, les voix qui viennent de partout, et donc le sujet glisse, le sujet n'est pas nécessairement un jeu, une ère, et puis on peut parler plus précisément quand on discute moins.
En fait, je pense que tu as déjà répondu à ma prochaine question, mais je vais la poser quand même. La narratrice dans tes romans est aussi en quelque sorte le sujet qui écrit. Alors, on trouve un mouvement continu entre le temps et l'espace de l'histoire et le temps et l'espace du processus d'inscription. D'inscription. Cela, pour moi, résulte en un sujet diffus. C'est un peu le sujet composé, peut-être, que tu viens de décrire. Ce sujet diffus porté à travers les lieux, à travers les voix, les moments, les objets, ainsi que le non-dit, parce qu'il y a plein de non-dits aussi dans ces romans, à travers les absences. Alors, la question que j'avais, c'était: qu'est-ce qui est en jeu pour toi dans la diffusion du sujet?
Qu'est-ce qui est en jeu? Mais là, je viens d'expliquer un petit peu ce que je cherche à faire. Je ne vois pas d'autre façon à faire avancer le roman un peu, l'amener peut-être au temps contemporain, que de l'amener plus à la fois vers la poésie et vers l'essai. Donc, c'est un peu ça l'enjeu, ce que je fais dans mon roman, dans mes romans, mais je pense que c'est mieux que peut-être que je décris mon dernier roman, ça va être plus clair. Donc, le dernier roman qui s'appelle The Obituary a une narratrice qui s'appelle Rosine, mais c'est une narratrice qui, par des mouvements dissociatifs, glisse d'une partie d'elle à l'autre, si vous voulez. Donc, des fois, c'est une femme sur un lit, dans une chambre, sur la rue Jeanne-Mance, ou bien dans la fenêtre de cette chambre. Des fois, elle est sur un autobus. Ça, c'est le personnage qui s'appelle Rosine. À côté de Rosine, il y a aussi une mouche sur le mur. Et la mouche, c'est aussi Rosine. C'est peut-être son côté érotique. Et des fois, c'est la mouche qui reprend la voix narrative. Et cette mouche est un personnage très érotique, très en chair. Il ne parle que du sexe, d'ailleurs. Et il intervient souvent quand Rosine a un moment érotique qui lui arrive dans ses pensées ou dans sa vie. Et puis, il y a un troisième personnage qui est une historienne lesbienne qui parle du sous-sol du bâtiment dans lequel Rosine se trouve. Et cette historienne-là est aussi Rosine. C'est comme... Je n'ai pas pensé ça comme le fameux triumvirate comment dis-tu en français, triumvirate de Freud, id, ego et superego, mais c'est à peu près ça. Là, le mousse, c'est un peu le ça. Et puis, la lesbienne est le surmoi, et puis Rosine, c'est le moi. En tout cas, ce que ça permet, c'est d'ouvrir l'espace romanesque beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que toutes sortes de voix peuvent rentrer. Donc, au cours du roman, vous voyez que c'est déjà très, très construit architecturalement, c'est-à-dire c'est un triplex. Donc, on a Rosine au troisième étage, d'autres voisins avec qui on ne s'entend pas, et bien entendu. Et puis, au sous-sol, il y a Rosie, l'historienne lesbienne. Puis, en dessous, il y a les restes du palais de cristal. Je ne sais pas si vous connaissez le palais de cristal à Mile End, parce qu'il y en avait un à Mile End. Et en fait, j'ai commencé à écrire le roman quand un ami qui travaillait pour la Société historique de Mile End m'avait raconté qu'il y avait un palais de cristal à Montréal. Enfin, les murs étaient en bois parce que, à cause du climat, ce n'était pas tout en verre comme à Londres, mais le reste était en verre. Et puis, c'était là dans la... Et puis, j'ai compris que ma maison était plus ou moins construite... pas exactement sur le palais, mais à côté. Le palais a brûlé, je pense, vers 1890. Avant ça, il a servi d'abord comme une exposition, un site d'exposition industrielle. Après ça, c'était un hospice pour les gens qui souffraient de la variole. Et notamment les travailleurs du du quartier Saint-Jean-Baptiste qui, contrairement aux Anglos de l'ouest de la ville, qui étaient plus riches, etc., n'étaient pas vaccinés contre la variole. Alors, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont retrouvés dans le palais, dans l'hospice. Donc, le roman, le fait que le personnage n'est pas un personnage solide, mais un personnage glissant, ouvre beaucoup de place et pour que le temps bouge, pour que beaucoup de voix viennent. Ils viennent des fissures de la maison, ils viennent de la rue contemporaine, ils viennent partout. Puis, ça fait un roman qui est peut-être un petit peu difficile à lire au départ, mais je crois que si on le lit comme on lit la poésie, c'est-à-dire ligne par ligne, phrase par phrase, en effet, c'est toute une composition presque musicale, je dirais.
Est-ce que ça te tente de nous lire un extrait?
Maintenant que je l'ai beaucoup monté, oui. Là, je vais... OK, je vais lire juste un tout petit peu. Excusez-moi, c'est en anglais, ce n'est pas encore traduit. Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Geneviève, pourquoi tu... Je ne sais pas. J'espère bien que ça va être traduit. Oui, je crois bien que ça va être traduit. OK, ce chapitre commence. « These wars on the radio are keeping us from our own. » Quand je lis, j'essaie de lire vraiment phrase par phrase parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire aussi quand on le voit devant soi sur la page. Parce que la ligne narrative, comme il y a beaucoup de voix et beaucoup de mouvements, la ligne narrative n'est pas ce qu'on voit normalement dans un roman. In Pale Mile End, behind the night sheds, little pink clouds come tippling, tippling down. And huge yellow maple leaves, not cold enough to turn red, tumbling, tumbling on regrowing November grass to lie like yellow hands. From the kitchen radio, the ack-ack swat of the most sophisticated of bombs weighing up to 2 tons from the most fantastically shaped planes cut out of futuristic novels, falling on rubbles of sand and broken stone, desert people called home. OX, do you remember when Afghans spelled dope? embroidered vests, vast windswept steps with tanned shaggy fashion models standing slant on them.
Okay, that's all I'm going to do right now. Yeah. Okay.
Oui, en fait, pour moi, tes romans s'intéressent aux éléments du sujet qui ne peuvent pas être facilement transposés en langue, en culture. C'est-à-dire, y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de non-dits. Et les romans mettent en scène Rosine, par exemple, est hantée par des personnes, des lieux effacés, par les langues qui se cachent derrière les langues qu'on utilise. Éventuellement, plus tard, dans le roman, des génocides qui ne sont pas reconnus comme tels. Alors, pour moi, je me suis dit, c'est une écriture qui pose la question comment faire passer ce qui ne passe pas.
C'est exactement ça que j'essaie de faire dans mon écriture. J'ai commencé, mon premier roman s'appelait Héroïne. J'imagine qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout mon écriture ici, puis d'autres qui la connaissent passablement. Et puis, dans ce roman, c'était vraiment le premier essai d'avoir une conversation vraiment approfondie avec la culture québécoise. Je mettrai entre parenthèses un commentaire. On dit actuellement à Montréal que, bon, Montréal s'anglicise et que c'est assez paradoxal parce qu'il y a de plus en plus d'anglais qui parlent français. Mais ce que j'ai cru remarquer, c'est que même si on parle de plus en plus, plus ou moins bien le français, on ne fréquente pas les milieux de culture québécoise, on ne lit pas la littérature québécoise, on ne va pas aux pièces québécoises, pas beaucoup en tout cas, peut-être le cinéma un petit peu, je pense en musique et en art visuel, c'est assez intégré des deux côtés, mais il reste qu'il y a quand même ça, puis je pense que si on va vraiment avoir une conversation, puis écrire Montréal comme vraiment, me semble que Montréal est, il faut vraiment essayer de rentrer assez profondément dans les lieux québécois. Et Héroïne était ma première tentative, donc, de faire ce boulot-là. Et puis, ce que je voulais faire, c'était de trouver un lieu d'où je pouvais raconter l'histoire que je voulais raconter, qui était plus ou moins une histoire, tout en de façon aussi honnête que possible, de façon aussi peu opportuniste que possible aussi. Ça, c'est important parce que je crois que c'est très facile d'exoticiser un lieu pour les gens plus loin. Et je pense que ça, c'est pas la bonne façon de l'approcher. Alors, il fallait que je trouve une façon d'écrire en anglais où on sentait la contrepartie qui était la langue française. Et dans ce roman-là, c'était un roman où je travaillais beaucoup avec le son de du langage et je cherchais à avoir un ton. Mais ça venait de. C'était situé dans l'année 80, bon, la première année référendaire. Et je voulais attraper un peu la passion, l'excitation. De cette époque-là dans ce roman et pour moi le ton du roman était très influencé par les nuits de la poésie qui avaient lieu à l'époque et qui étaient les nuits, les moments vraiment très très c'était la poésie mais c'était aussi, il y avait quelque chose derrière ça qui était vraiment vouloir un vouloir avancer, changer la société et tout. Alors, je cherchais vraiment au niveau du son, du langage dans ce roman-là et aussi déjà au niveau de la structure. Parce que là, à cette époque-là, j'enseignais le journalisme à Concordia. Et puis, j'enseignais et la presse anglophone et la presse francophone. Et puis, à un moment donné, c'était la crise d'octobre. Et puis, évidemment, il y avait deux histoires très différentes dans chaque groupe de journaux. Alors, ça m'avait aussi appris qu'il fallait trouver une façon de comme, écrire dans un espace, pas entre les deux, mais exactement là où ça se rencontre. Donc, ça, c'était Héroïne. Donc, dans Héroïne, c'est la même histoire racontée à peu près 5 fois d'un point de vue différent. Ça tourne comme ça tout le temps. C'est une histoire d'amour parce que toujours avec une histoire d'amour, on peut faire semblant de faire un roman parce qu'il y a l'amour, puis il y a la fin de l'amour, puis il y a la solution à la toute fin. Après ça, c'est bon, la narration commençait à se défriter petit à petit. Je ne sais plus c'était quoi la question, mais on arrive au présent.
je dirige actuellement un numéro spécial de la revue Open Letter. Je le fais en collaboration avec Bronwyn Haslam, qui est avec nous. Et on a reçu un article d'un jeune critique qui habite actuellement à New York et qui parle de la ponctuation dans toute l'œuvre de Gail Scott. Et il s'appelle Corey Frost. Pour Corey Frost, la ponctuation sert précisément à exprimer ce qui ne trouve pas d'expression dans le langage. Alors, c'est un peu comme l'utilisation du trait d'union ou du tiré dans Heroine, où il y a plein de parenthèses en Main Brides. Il constate, plusieurs critiques ont parlé de la virgule dans My Paris, la virgule de la traduction, ou encore, lui, ce qu'il trouve dans The Obituary, c'est l'apostrophe. Il constate qu'il n'y a plus de G, c'est IN apostrophe.
Le participe présent en anglais, c'est
oui,
ça?
Oui, oui. Pour lui, les espaces entre les mots, entre les éléments de la composition, peuvent être aussi importants que les mots, en fait. Et la question que j'ai, c'est: pourquoi jouer avec la ponctuation? Est-ce que tu es consciente de sa place dans ton écriture?
Je suis hyper consciente de la place. C'est un dispositif, un moyen comme un autre pour un peu retravailler la syntaxe et la forme. Dans My Paris, qui a été traduit en français par Julie Mathieri, tout le roman est écrit en participe au présent. Très difficile à traduire en français, d'ailleurs, je crois. Et la raison que j'ai... Ça, c'est moins la ponctuation que la syntaxe, mais je voulais éviter le verbe actif. Parce que je ne voulais pas un sujet touristique grand qui raconte Paris de point de vue un peu naïf. Je voulais déjà rendre le sujet très poreux. Et puis j'ai découvert en écrivant que tu peux réduire le sujet parlant de beaucoup si tu lui refuses un verbe actif dans une phrase. Alors ça, c'était une des choses que j'ai fait dans My Paris. Dans The Obituary, les apostrophes servent à raccourcir certains mots. Donc, les articles, l'article « the », T-H-E en anglais, se réduit, est réduit à T-H apostrophe. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Ça change la phrase. C'est vrai que ça ouvre un espace, mais c'est, je pense que c'est le moyen que j'ai trouvé dans ce roman à donner une espèce de tonalité gallique, si vous voulez, à la phrase, le et le la en français étant beaucoup plus court et moins insistant, mettons, que the en anglais, qui est quand même assez fort, parce que le no est très important en anglais, puis je pense que la langue anglaise est une langue très descriptive aussi. L'apostrophe coming and going, l'apostrophe provenant, par exemple, quand on laisse tomber le G en anglais, ça ouvre un espace aussi, et dans cet espace, on trouve quoi? On trouve les gens qui ne parlent pas bien la langue, on trouve les gens du milieu ouvrier, on trouve aussi la honte de ne pas parler bien la langue, ou bien la langue comme parlent les gens plus instruits. Alors l'apostrophe sert vraiment deux choses différentes là. Une c'est vraiment au niveau sonore, l'autre c'est au niveau d'ouvrir un espace vraiment qui est un espace de honte. Et c'est la partie de Rosine qui est la mousse sur le mur, qui lui, elle, est très en chair, et puis qui aussi quelque part est une créature qui représente la honte. C'est difficile d'enlever tous les morceaux comme ça, les petits moyens qu'on trouve pour faire passer un roman dans son entièreté, parce que le champ est très vaste. Et on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour changer vraiment le ton, la façon de faire les phrases, la façon de progresser. Et ça, c'en est un petit. Oui.
Est-ce qu'on peut parler un peu du... En fait, c'est ce qu'on parle, c'est ce dont on parle depuis le début. Est-ce qu'on peut parler un peu plus du style... J'ai essayé, je me suis donné le défi de d'un peu caractériser le style. Qu'est-ce qui distingue ou donne à ta prose sa spécificité? Et je pense que ce qui me frappe le plus, et je l'ai déjà mentionné, c'est probablement le refus total d'une perspective singulière. Il y a toujours divers points de vue en même temps et divers moments superposés l'un sur l'autre. Alors, il y a aussi un autre aspect de ça, c'est que la perspective du roman est plus une technologie que quelque chose d'évident ou de naturel. C'est-à-dire qu'on est vraiment... on est appelé à reconnaître qu'il faut un médium, il faut un moyen, le regard, il faut un regard. Il faut un regard, il faut un point de vue pour que l'histoire se raconte, s'élabore, etc. Et il peut y en avoir plusieurs. Et qu'est-ce que ça donne d'avoir plusieurs points de vue?
Tu dis qu'il faut avoir un point de vue?
Bonne question. Non, je dis qu'il faut un regard. Il faut un regard, pas un...
De la part du lecteur, tu veux dire?
Non, je pense plutôt à la composition et du fait qu'il faut en quelque part... un regard pour que ça commence à se dérouler.
Okay.
J'ai peut-être tort. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'en général, tu n'as pas tort, mais c'est là où je trouve assez bizarre où se trouve le roman aujourd'hui, parce que dans les arts plastiques, dans la musique, dans la peinture, depuis peut-être un siècle, dans la poésie, dans certains types de poésie en tout cas, il n'y a plus ce regard-là. Dans la poésie conceptuelle, par exemple, il n'y a plus ce regard du tout. Je veux dire, le regard est plutôt inventé par le lecteur, la lectrice. Et pour moi, écrire, c'est penser. Bon, mais ça, c'est classique. Mais c'est vouloir... Moi, je vois le travail de l'écrivaine comme voulant... faire avancer un petit peu notre façon de voir le monde, notre façon de penser. Et pour ça, il me semble qu'il faut troubler le rapport entre les parties qui composent un texte, un genre. Et pour moi, un regard qui n'est pas un point de vue unique, comme on dit en anglais, je ne sais pas si on a cette expression en français, un point de vue. Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on enseigne la littérature comme ça? Parce qu'en création littéraire, en général, si on prend des cours de fiction partout, on dit « Ah, attention, le point de vue n'est pas clair. » Mais moi, je trouve ça extrêmement problématique, composition. Si on voit les indignés maintenant qui ont tenté d'occuper certains endroits dans les grandes villes, ils refusent un point de vue. C'est plus les marxistes-léninistes de l'époque où on arrivait à les manifestations avec les deux pacates pour chasser les gens qui n'étaient pas sur la même position qu'eux autres. Là, c'est vraiment autre chose maintenant. C'est pas... Sans doute, il y a un point de vue quand même, mais c'est quand même beaucoup plus dispersé, beaucoup plus troublé, beaucoup plus exploré. Et c'est ça que je trouve qu'il faut commencer à faire avec le roman. Et c'est pour ça que j'essaie d'ouvrir le texte. Comme c'est ouvert en poésie, quand on lit une ligne de poésie, après, il y a un moment pour s'arrêter, pour penser, pour dire, pour ajouter son mot à dire. Donc, si on construit les phrases et les rapports entre les phrases de façon que le lecteur n'est pas accroché totalement à la narration, mais qu'il peut s'arrêter, qu'il peut voir un jeu qui va en avant, qui va en arrière, qui peut entendre des voix variées qui viennent dans la prose, moi, je pense déjà que c'est une contribution à la façon de voir le roman contemporain. C'est ça que j'essaie de faire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une tension entre le travail sur le langage, c'est-à-dire le fait de garder en avant-scène une conscience que le langage n'est pas seulement moyen de communication, mais aussi... comme la peinture ou comme des notes en musique, quelque chose de très matériel, très plein de possibilités. Il y a une tension entre cette ralenteur-là que j'exige de mes lecteurs et le mouvement de narration, parce qu'il y a aussi une narration. Je reste quand même... engagée dans le sens du roman, parce que je pense que le roman, et c'est pour ça que je suis romancière et non pas poète, d'ailleurs le terme romancière, c'est vraiment puant comme terme, franchement, un roman, et surtout quand on est femme, romancière, en tout cas, j'haïs cette... Mais, qu'est-ce que je disais là? Je pense que cette tension-là, pour moi, est une tension intéressante. Et si on ne sait pas, ou si des fois on dit qu'on ne sait pas le lire, finalement, on finit par savoir le lire. Je veux dire, ça prend plus longtemps. Et des fois, j'ai des mauvais critiques au départ, mais en général, après 3 ou 4 ans, tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est un bon livre! » Alors, ça... c'est vrai que je, c'est clair que je ne gagne pas une fortune, mais quand même, il me semble que c'est ce qui, enfin, c'est ce qu'il faut, c'est ce que moi je pense que je dois faire.
OK. Maintenant, je comprends mieux pourquoi d'après mes termes, pourquoi le regard est scindé en mouche, en rosine qui regarde par la fenêtre, à travers la fenêtre, et l'historienne.
Dans le sous-sol, oui.
Oui, c'est-à-dire que tous des lieux différents,
oui.
et etc.
Mais là, je veux dire, là on revient aussi à l'enseignement de la lecture au niveau universitaire, sans parler du lycée, du secondaire et au niveau collégial. Et il me semble, je ne sais pas moi, ça fait longtemps que j'enseigne la création littéraire ou le journalisme au niveau universitaire, puis il me semble que de plus en plus, on enseigne de moins en moins la poésie. Ça me désole vraiment parce que sans enseigner la poésie, justement, on ne lit que pour cette espèce de trame qui perd beaucoup de... on perd beaucoup de conscience de qu'est-ce qu'il y a dans le langage à part justement d'une notion du sens très réduit, tout le côté charnel du langage, tout le côté musical, tout le côté ambigu, ambivalent, tout ce qui vient d'autres langues qui arrivent. Je comprends vraiment pas en anglais le... Cultural studies, l'approche cultural studies, je ne sais pas comment. Vous savez ça en français? Comment vous appelez ça en français? Oh, vous ne faites pas ça en français? Oh, génial. Mais en tout cas, me semble vraiment être très problématique parce qu'on est constamment à la recherche des thèmes. On impose une lecture qui n'est pas une lecture exploratrice du tout. C'est une lecture vraiment où les étudiants sont poussés, me semble, à en venir aux conclusions très, très vite. Et donc, cette parenthèse, c'est juste pour dire, enseignons beaucoup, beaucoup de poésie au niveau universitaire. Oui.
Oui, j'allais parler un petit peu du détail, l'effet détail dans tes romans. Peut-être, je vais juste simplement dire que pour moi, quand je suis désorientée dans l'espace et dans le temps, je pense que je me raccroche aux détails. Il y a beaucoup de détails au niveau de l'habillement, des émotions, l'architecture... tous les discours qui portent sur le corps, etc. Et je pense que, comme tu dis, on est supposé de repérer les grandes lignes d'une histoire, mais c'est impossible de trouver des grandes lignes. Mais en fait, la richesse, c'est les détails. L'émotion et le non-dit qui passe par les détails, souvent. Pourquoi le titre « The Obituary » et j'ai joué un peu, j'ai réfléchi un peu à ça. Dans ce roman, on assiste à la perte d'une mère qui a nié ou qui ne connaissait pas ses ancêtres amérindiens. Et de façon plus générale, on assiste à la perte historique du mode de vie et de la culture des Premières Nations. Il y a un moment où la voie narrative feuillette un livre des génocides. et elle ne trouve aucune trace des pratiques et lois génocidaires du Canada. Alors, la question qui s'impose, ou qui m'est venue, c'est peut-on lire The Obituary sous la forme d'une tentative de réconciliation avec ce qu'on a perdu? Ou quel est le rapport à ce qu'on a perdu?
Ça c'est une question assez intéressante. La question d'abord ma mère savait très bien qu'elle était descendante amérindienne parce que son père parlait une langue amérindienne à sa grand-mère. Elle ne savait pas que sa mère était métisse, ça c'était seulement dit après sa mort, mais elle savait au moins pour son père. La famille encore, il y a des parties de la famille encore actives dans les milieux autochtones, donc c'était pas exactement quelque chose qui n'existe plus, mais ce qui m'intéressait, c'était de replacer, d'écrire un roman où on parlait, de trouver une façon de parler du silence. Et au départ, j'avais aucune idée. Ça m'a pris vraiment très, très, très longtemps d'écrire ce roman. Encore, je voulais faire quelque chose de correct dans le sens d'être en paix avec moi-même. Je ne voulais pas les fausses réclamations, genre « Oh, j'ai découvert ma grand-mère écrit » ou quelque chose comme ça, le genre de choses qu'on fait, puis que je trouve des fois un peu bizarre. Mais je voulais aussi ne pas oublier des choses qui me semblent importantes. Et plus que j'écrivais ce roman, plus que je constatais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, peut-être presque tout le monde, qui a des grands silences, des choses réprimées d'ordre identitaire dans leur famille, etc. Et que je pouvais faire un roman qui parlerait non seulement aux gens avec un background comme le mien, mais un background plus large. Mais ce qui me frappait surtout, et comme je vois le roman maintenant, c'est que il y a toute une vie qui se passe au niveau de la ville, et surtout au niveau du quartier Mile End. Et en dessous de tout ce mouvement-là, moi, je vois la présence autochtone qui est là, qui est toujours très présente. Qu'on sent si on le cherche, qu'on voit dans les visages des autres, qui n'est jamais dit ou qui est dit très, très rarement. Je voulais trouver une façon de raconter cette histoire, en partie parce qu'on continue. L'assimilation au Canada, puis au Québec aussi, était faite de façon, on le sait, très brutale. Je pense qu'on pourrait appeler ça à quelques niveaux, à un certain niveau, le génocide, surtout si on parle du traitement des enfants dans les écoles résidentielles où des milliers sont décédés, enterrés, sans que les parents même le sachent avant des années, des fois. C'est quand même assez dur comme histoire. Et on continue à gruger sur les terres autochtones. Maintenant, on se prépare à la faire avec le plan Nord. J'entends pas beaucoup parler du rapport avec les autochtones, un peu, parce qu'il y a des autochtones qui commencent à se plaindre, mais quand même, c'était pas quelque chose qui était mis en avant au départ. Donc, il me semble important d'essayer de créer une espèce de ville où une partie d'une ville où on sentait une présence non dite. Et Je ne pense pas qu'il y ait de réconciliation jamais avec ce genre d'histoire, mais je ne pense pas non plus que ça soit tragique. Je pense que c'est un constant mouvement et un constant changement qui s'ouvre sur d'autres choses. D'une façon, c'est comme ça que je le vois. J'espère que c'est un regard en arrière, mais où l'arrière est aussi placé dans le présent et envers l'avenir. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Est-ce que je peux t'inviter à lire un petit peu plus? Parce que ça, j'allais enchaîner avec les... Ben, pas vraiment enchaîner, mais j'allais poser des questions sur le roman policier, toutes les références au polar
Pourquoi tu ne poses pas les questions? Parce que c'est en anglais, puis ce n'est pas sûr que tout le monde... C'est pas... Mais ça, c'est pas une partie pour là. Je vais juste continuer d'où j'étais avant. I'm that face on the third, barely visible behind a gray Venetian's and upper triplex window. Having arrived one day from a Madame B's in border town of SD, I am reputed to hate children. I also liking cats enough not to have one. Our overconfident ground floor potter with chocolate lab named Lada feigning shock when hearing that. She's from the outers. So instead of the friendly tangled back courtyards we used to have, now looking down onto North America's biggest crop, lawn. Hours get spent, artfully arranging plastic lawn sets shaped like dinosaurs in it. Her chocolate lab following her all day, nuzzling, trying to get attention. Occasionally, she throwing a crumb his way just enough for keeping addicted. But whatever inciting me to say my name means French pet, diminutive of multiple layers and possibilities. Rest assured, dear ex, a tale's encrypted mid all these future comings and goings of parlor queens, telephone girls, leather divas, grandpa's little split-tailed fists, a tale unspeakable as owls and ceaseless vigil staring from eyes round and amber as cat Etta's, more of whom soon. Please be further advised, only epiphanic afternoon shall hear and be remembered. Circumstantially, I am posturing as a woman of inchoate origin. Problematically, I can hear you saying, to underscore how we are haunted by secrets of others, such as they colporting spite from the outers to rue settler nun Mile End, Quebec, further absorbing under surface of community amenity the bitter particles of those going there before, the shale pit workers floating up from burnt down Crystal Palace, whose rotting pylons still directly under, where once upon a time, when it not being used for smallpox hospice, British officers used to hold their balls. They were rumored not to like girls like me very much. They also hated Indians. This is better documented. By the end of our tale, we may likewise be dead. Increasingly, I am slipping. Yesterday, riding bicycle down sidewalk, past deserted bank building, sticking middle finger straight up in the fuck you sign of former prime minister making famous, who I liking best when he wearing fringe jacket and paddling a canoe, trying by slightly bending the digital to make the sign without, in my case, anybody noticing, a thin man, very dark eye shadows looking straight in my face as if, are you crazy? Oh, no, no, no. I saying, waving both hands in air in somewhat accented French, this not meant for you, turning right and driving, still on sidewalk, past where the bank machine now is, recounting the whole incident in rather loud voice to myself. But the worst glissement of thought toward inappropriate action happening the other day on the bus, sitting there in the dim light called pénombre, in the chambre, I sing outline of breast just like hers and nearly reaching out and cupping, which confusion of proprieties I blaming on incident with brother language, that's crossed out, and tell little conflagrations flaring up in dark like lightning in a film noir.
Oh, there's the film noir. OK. J'allais dire, il y a beaucoup de références dans The Obituary, au roman policier, au polar, au film noir. Et tu l'as parfois qualifié de « urban noir », le genre. Alors, la question, c'est quel est le rapport entre ce roman et les œuvres de Chandler, de Hitchcock, d'Edgar Allan Poe? Le film de Hitchcock, « Dial M for Murder », par exemple, il est évoqué à plusieurs reprises, c'est un film dans lequel l'héroïne parfaite des années 50, Grace Kelly, dans sa robe parfaite, dans son appartement parfait, résiste à son agresseur et réussit à survivre à une tentative de meurtre. Quelle est la portée de ce genre ou de ce film pour...
Est-ce que vous connaissez ce film? Pas mal de monde. Moi, je trouve ce film, la pièce qui a fait le film vraiment intéressant. Il y a beaucoup de rapports. D'abord, j'avais pas d'intrigue pour mon roman, comme vous voyez. Vous voyez pourquoi? Parce que, bon, j'ai tout expliqué ça. Et c'est peut-être la chose conceptuelle de ce roman-là, c'est qu'il a fallu que j'emprunte une intrigue ailleurs. Donc, j'ai décidé que l'intrigue, c'était Dial M for Murder. Et il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient dans ce film. D'abord, du côté de toute l'action, toute la non-action, on peut dire, parce que c'est soit le lit, soit la fenêtre pour la femme dans la chambre, il y a dans l'escalier intérieur deux détectives qui la surveillent. Un, c'est un ancien gendarme parisien, probablement mort parce que presque tout le monde est... On ne sait pas si le monde est vivant ou spectre dans le film, mais lui, il regarde par le... keyhole. Trou de serrure, oui, c'est formidable en français d'ailleurs. Trou de serrure. Il regarde par le trou de serrure parce que c'est pas vraiment Rosine qui l'intéresse, mais le grand-père de Rosine, le grand-père plus ou moins amérindien, qui était aussi un danseur à claquettes. Là, j'ai utilisé et mon père et mon grand-père pour ce personnage-là. Et le danseur à claquettes, le détective parisien avait rencontré ce danseur à claquettes à Paris il y a très, très, très longtemps. Donc, il l'observe et puis il a un étudiant, un jeune Québécois, étudiant de technique policière, qui... est spécialiste dans les ordinateurs qui en même temps essaie de rentrer dans l'ordinateur de Rosine. Donc, il y a l'élément de surveillance et puis pour moi aussi, j'ai pris ça comme une espèce de trope sociale parce qu'on est tellement surveillé ces jours-ci que tout ce qu'on fait, on est surveillé partout, dans les parcs, dans les avions, partout. Alors, j'ai trouvé qu'il fallait absolument avoir des surveillants. Et donc, ça aussi, c'était utile d'avoir comme une intrigue un peu détective. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, le jeune détective, le jeune étudiant québécois, quand il fait son devoir pour Casse-Noisette, le Parisien, il écrit dans son devoir que probablement quand il y a un assassinat, l'assassin a ses raisons et que la ligne est très faible entre des fois la victime et la personne qui est attaquée. Puis ce qui me fascinait complètement dans le film de Hitchcock, c'est que la femme... Bon, il y a un couple, c'est une femme riche et puis son mari qui est arrivé un peu à l'épouser puisque c'était un star de tennis beau, et un beau star de tennis. Mais au fond, il manque un peu de confiance en lui-même et ses antécédents un peu moins bien commence à sortir de plus en plus. Il vient jaloux parce qu'elle a un amant, puis il décide de la tuer. Et ça marche pas. Donc, mais en fait, c'est pour inverser les rôles parce que finalement, moi, j'ai comme pitié pour le mari parce que c'est il n'est pas arrivé à monter l'échelle sociale comme il voulait et comme toujours, la bourgeoisie gagne à la fin. Donc, la femme, finalement, même si elle tue son assassin, elle sort de prison et puis c'est normal aussi. Mais j'aime que ça soit renversé. Puis, il me semblait que l'honte du mari, c'était un peu comme la honte dans la famille de Rosine, qui n'était ni innocent parce qu'ils avaient nié leurs racines et n'étaient pas solidaires avec les gens, mais ni complètement coupable non plus parce que quand même ils n'étaient pas en contrôle des conditions sociales. Donc ça c'est deux des choses. Donc tout le long du roman, on se ramasse à un moment donné, se ramasse assez souvent en plein milieu de ce film-là. Oui.
S'il y a des éléments du roman policier, c'est-à-dire il y a enquête. S'il y a dans The Obituary les éléments du roman policier, c'est-à-dire oui. Il y a enquête, il y a l'historienne qui fait de la recherche et il y a en même temps eu violence, crime, meurtre, etc. Il ne s'agit vraiment pas d'un roman policier conventionnel, évidemment. Il n'y a pas de résolution. Les pistes restent complètement brouillées. Je sais, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, il y a les tentatives. Dans le roman policier, il y a toujours dissimulation. Et il y a des tentatives dans The Obituary pour étouffer l'histoire, le passé, mais autant par les victimes des crimes, les victimes du racisme, si on peut parler des victimes, que par ceux qui les ont perpétrés. Alors, ça complique un peu. La violence, le racisme s'intériorise comme un traumatisme et se manifeste. Il y a des traces. L'historienne est à la recherche des traces.
Exactement, oui, c'est ça. Oui.
Alors, il y a des éléments du polar, même si
oui.
Ça ne fonctionne vraiment pas comme un roman
oui, oui.
policier.
Oui, tout à fait. Oui.
OK.
Oui.
Je ne sais pas si je peux t'inviter maintenant à lire un petit peu de My Paris, ou peut-être on peut parler d'abord de la question de la traduction et puis terminer avec... alors, la traduction de tes romans, ton écriture est reconnue pour sa relation poreuse à la langue française. Et dans la traduction de tes œuvres, cette porosité ne peut être reflétée simplement pas, reflétée simplement en intégrant les mots anglais dans le texte français, encore moins en traduisant le texte entièrement en français. Une traduction d'un de tes romans doit prendre en compte le lieu de tension, il me semble, duquel s'exprime la narratrice anglo-montréalaise. Cette voix narrative qui se situe dans les interstices entre les cultures, entre les langues. Et il y a plusieurs critiques qui ont parlé de la question, qui ont discuté de la question de la traduction. Gillian Lane Mercier, par exemple, a parlé de la traduction de Heroine, le premier roman. Elle a dit que la traduction met de l'avant les liens du roman avec le Québec, mais au détriment de cette friction. Au détriment de cette position interstitielle de la narratrice. C'est-à-dire que dans la traduction, la narratrice de Heroine est bien ancrée dans le vernaculaire québécois. Et il y a très peu de traces de la friction entre les langues.
Pour la narratrice comme telle.
Oui. Oui. Catherine Leclerc, elle étudie Main Brides et elle trouve que Main Brides va dans l'autre sens, c'est-à-dire que la traduction utilise le français d'un sujet francophone cosmopolite, international. Qui ne parle pas forcément le français d'une résidente de Montréal. Je ne sais pas si on peut dire de la traduction de My Paris qu'il y a oscillation entre le vernaculaire québécois et le français international. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui. Je pense que c'est une question très... pour ce qu'il s'agit de traduire la littérature anglo-québécoise en français, où je pense que les écrivains francophones vivent ça aussi, les questions des niveaux de langue. Quand même, trois vraiment bonnes traductrices qui m'ont écrit, traduit à date. Mais Suzanne de Lobinière-Harwood, qui a traduit Heroine, traduit plutôt vers l'anglais et vers le français, je veux dire. Et je pense que c'est le premier livre qu'elle a traduit dans l'autre sens. Et je ne sais pas... ce que moi j'ai remarqué dans cette traduction, c'est plutôt qu'il y a des niveaux de langue... bizarre, par exemple, il y a une européenne qui parle joual, le suédois dans le roman parle joual, et ça me semble. C'était les choix un peu qui me semblent pas un peu bizarres, mais je dois dire qu'il est tellement difficile de traduire ce genre de travail-là, et peut-être c'est pas nécessairement la première fois qu'on l'a correctement. Main Brides, par contre, c'était pas traduit par Montréalaise d'origine, c'était traduit par Paul Noyot, aussi une très bonne traductrice qui a gagné toutes sortes de prix. Mais c'est quelqu'un d'origine européenne et comme le roman était situé sur la Main dans un bar, bon, mais là aussi, il y avait quand même peut-être un petit décalage des fois. Finalement, pour My Paris, j'ai traduit avec Julie Mathieri, c'était vraiment un travail d'échange formidable. On s'est beaucoup écrit, puis je pense que des trois traductions, c'est celui qui me semble que je préfère. Mais je trouve ça difficile à critiquer les traductions aussi parce que je l'ai déjà fait moi-même la traduction, puis c'est vraiment comme le ménage, la traduction, plus tu fais, plus tu peux faire pour le rendre encore mieux, alors tu n'en finis plus. Non, c'est vrai, c'est vraiment tout un boulot. Donc je pense que ces problèmes sont des problèmes pour mes romans, mais aussi des problèmes plus généraux.
Oui, en lisant le travail de Catherine Leclerc et de Gillian Lane Mercier, je me suis rendu compte qu'effectivement, la cohabitation des langues, les erreurs d'une personne dont le français est la langue seconde, l'usage du vernaculaire, les possibilités d'expérimenter avec la langue française, ce sont des défis qui se présentent. À la traducteur, traductrice. Je ne sais pas si maintenant je peux t'inviter à lire juste un extrait ou le début de My Paris.
Je ne me sens pas en voix pour lire en français ce soir. Pourquoi on ne passe pas par la période des questions? Que je vais lire comme... Hein? OK, ouais. Je vais juste lire comme un paragraphe, premier paragraphe. Vous verrez pourquoi c'est difficile de traduire le participe au présent en français. 1. Comme une héroïne de Balzac, je suis sur un divan. Et 3. Recouvert d'un petit motif abstrait en noir et blanc. Au bout, un paravent en papier de riz. 3 panneaux au cadre en acajou. Des murs, coquilles d'œufs, gracieusement courbés aux angles, fixant du regard de minces radiateurs touchant presque tout le plafond. Une bibliothèque à 4 étagères en forme de croissant. Canapé noir et blanc. Bas, confortable. Table basse, verre posé sur métal. Table à manger grise et ronde et chaises assorties aux leurs pieds chromés. Bureau en teck, ordinateur, meuble en teck avec téléviseur, magnétoscope, fax, tapis vert et jaune sur parquet, l'un d'eux portant initial du créateur dans un coin. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je me sens un peu bizarre, coupable dans toute cette élégance, baigné de la lumière blanche qui traverse les rideaux transparents. Dehors, le boulevard bordé d'arbres. Les voitures qui montent et qui descendent à toute allure dans un bouquin infernal. Mon châtiment pour me trouver ici, assis avec mes boules qui, la musique à fond, j'entends quand même le vacarme. Je ne l'ai pas bien nommé, en tout cas, c'est ça.
Merci, merci Gail Scott. est-ce qu'on termine? En fait, j'avais une autre question, mais peut-être on peut passer. En fait, c'est peut-être Gilles qui pourrait la poser, cette question. C'est la question qu'on a posée à David Hommel. La question de, si j'ai bien compris, c'était est-ce que le dialogue fonctionne différemment en langue française et en langue anglaise? Parce que je pense que c'est ça, vous avez constaté une différence. Alors, la question que j'avais pour Gail, c'était quel est le rôle de la langue parlée dans ton écriture? Est-ce qu'il y a une différence? Quel est le dialogue?
Mais c'est-à-dire que, oui c'est, ben le dialogue, moi, j'utilise très peu, mais je pense que toutes mes phrases relèvent du parler de toute façon. Peut-être pas toutes mes phrases, mais j'écoute beaucoup. Alors, la langue parlée arrive de façon indirecte. Et je ne pourrais pas dire c'est quoi la différence entre le dialogue en français et en anglais. Je pense que ça dépend de l'écrivain. Oui. Mm. Oui. Peut-être en français, ça passe plus par l'indirect, je ne sais pas, mais... En tout cas, moi, je n'utilise pas beaucoup le dialogue. Non.
On a souvent le sentiment, quand même, qu'il y a du dialogue, mais c'est toujours...
Mais c'est ça. Oui. Oui. Je pense que ça s'appelle monologue ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui. Oui.
Je ne sais pas si je peux vous inviter à utiliser le micro et comme ça, c'est capté par... oui. oui. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui. Vas-y, Geneviève. Geneviève. Peut-être que je fais une traduction maladroite dans ma tête quand je pense à ce terme, mais pour moi, romancière me fait toujours penser à histoire d'amour. Je sais que ce n'est pas l'origine vraiment de ce terme-là. Mais vraiment, j'aimerais qu'il y ait un autre nom. En français, c'est vrai, ça vient de très loin. Puis c'est pas ce que j'imagine quand je. Mais pour moi, romancière, c'est Harlequin un peu dans ma tête. C'est peut-être ça la traduction mauvaise que je fais. Mais j'aime pas novelist non plus comme terme. Pourquoi pas juste écrivaine? Je veux dire, surtout si on mêle les genres, pourquoi romancière ou novelist? Mais il faut dire qu'ajouter le féminin exagère cette notion encore plus, comme je le... Mais je me rends compte en le disant que ce n'est pas une bonne traduction de l'intention du mot au départ, en tout cas.
Je me rebute un peu, dans le sens que vous avez donné comme par exemple l'exemple extrême des marxistes, qui viennent et puis qui ont une idée. Et la tendance aujourd'hui, c'est de ne plus vraiment focaliser sur une idée, d'avoir quelque chose et tout. Et ça devient de l'impressionnisme ou quelque chose de vague où tout le monde parle. Et vous avez donné l'exemple de Occupy Wall Street. Ben, Occupy Wall Street, il y a un problème avec cette façon de faire. C'est parce que c'est vague. Et on va rien, on va pas obtenir, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais j'ai eu ce problème avec la poésie depuis toujours. C'est que quand je prends un poème, je ne comprends pas. C'est très difficile. Puis quand j'arrive à le comprendre, ou si je parle avec le poète, je me rends compte que l'idée n'est pas clair ou même est fausse. Et c'est une tendance qui est de plus en plus marquée. Par exemple, on l'a beaucoup dans les arts, dans la peinture. Si je vais dans un musée ou dans des galeries, je rentre, je vois des tableaux. Ces tableaux ne me parlent pas. Mais pourtant, il est supposé dire quelque chose. Alors là, je comprends qu'il y a un langage qui ne m'est pas accessible. Mais pourtant, je voudrais bien comprendre ce qu'il y a dans ce message. Mais une fois que je discute avec l'artiste ou que je vais un peu plus profondément, je me rends compte que sa perspective est complètement différente de la mienne. Et puis que là, on aime rester dans le flou. Alors que j'aime beaucoup quand je prends un livre, quand je prends un poème, quand je prends un roman, quand je vais voir des tableaux, j'aimerais, même en faisant l'effort, etc., qu'à un moment donné, que ça me prenne. Est-ce que ça doit me prendre? Il faut que je me familiarise avec vous, il faut que je vous connaisse, il faut que je revienne lire et lire et lire et lire avant de pouvoir comprendre. Ou alors, normalement, je devrais pouvoir prendre ce livre-là et au bout de quelques pages, tout de suite, me retrouver. Je me rappelle d'un livre d'Hermann Hesse, le jeu de collier de perles de verre. Il a eu, c'est un de ses grands livres, etc. Mais le premier chapitre, il est pratiquement illisible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber ce livre-là. Parce que alors je disais toujours aux gens, ben, laissez tomber le premier chapitre, puis lisez le reste, puis après vous allez venir, puis vous allez le comprendre. Puis on en est là un peu dans les essais, dans la poésie, dans la littérature aujourd'hui, où j'ai comme l'impression qu'on a abandonné de donner un sens à tout ça, et puis de rester dans le flou.
Merci. Je pense que vous avez répondu à votre question. j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Je veux dire, me semble que vous avez répondu à votre question. Puis chacun de nous aime certaines choses et tout n'est pas pour tout le monde non plus. Je sais pas comment quoi dire par ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
fait, j'aurais beaucoup de questions, mais je ne poserai pas toutes. On aura l'occasion d'en parler tantôt, Gail. J'ai pas une question, mais sur la question du dialogue, ce que je voulais dire par rapport à, en comparant une tradition anglophone, francophone, disons, avec David Hommel, c'est que quand on écrit du dialogue direct, je trouve que généralement, dans la tradition américaine, anglophone, c'est mieux réussi en général que dans la tradition francophone, mais que par ailleurs, quand on peut faire passer le dialogue dans l'indirect, peut être une force aussi. Je pense que c'est dans ton cas, c'est ça. Ça passe par l'indirect. Nelly Arcand, quand elle écrit des dialogues directs, c'est raté. Mais quand elle écrit dans l'indirect, ça passe beaucoup. Donc ça, c'est autre chose. C'était de faire la nuance, je pense. Et toi, tu avais expliqué que tu n'aimes pas écrire des dialogues directs. Ce n'est pas ce que tu cherches, justement. Et c'est très bien parce que ça passe par l'indirect et l'oralité, elle est là. Mais ça m'amène un petit peu à ma deuxième question, peut-être qui m'intéresse davantage. Et j'espère pas t'insulter. Au contraire, c'est un compliment que je te fais. Tu occupes une place très intéressante, à peu près unique, je pense, dans la littérature québécoise, canadienne aussi, si on joue sur la frontière, intéressante, qui soulève un certain nombre de questions et qui, à certains égards, peut paraître anachronique. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, c'est un compliment quand je dis, quand on dit anachronique, habituellement, c'est un reproche qu'on fait, mais non. Parce que tu écris, il me semble, dans la suite, et ça revient dans ce que tu as dit aujourd'hui, la nuit de la poésie, par exemple. Tu étais très marqué par les expériences formelles qui ont eu lieu au Québec francophone, des années 60, 70. Tu connais le livre du Barraquin, tu connais en fait toutes ces expériences qui ont été faites. Tu as retrouvé ça à New York quand tu vas voir la scène poétique. Tu n'es pas toi-même poète, tu dis, tu travailles plus la prose, mais en fait, tu es poète de la prose, tu la travailles de l'intérieur, je peux dire. Et tu continues un projet qui est mort maintenant au Québec francophone. C'est vrai que le Cartanier essaie de faire c'est ressortir.
C'est pas mort chez les jeunes, ça
revient chez les jeunes. Mais en même temps, je ne sais pas, il me semble là, que ce que toi tu fais, c'est dans la poursuite d'un projet d'écriture qui, au Québec, était très fort dans les années 60-70, qui s'est étiolé.
C'est un compliment.
Ben, oui, pour moi, c'est un compliment.
J'attends.
Ben, oui, attends, je vais t'entendre là-dessus. Parce que les années 80-90, à part quelques expériences, c'était une coupure nette. On est revenu au roman traditionnel, au Québec en particulier, francophone, avec intrigue, personnages crédibles, dialogues. On essaie de faire des dialogues réalistes, mais à mon avis, c'est artificieux. C'est la littérature qui s'affiche comme littérature. Mm-hmm. Hein? Et toi, tu résistes à ça. Mm-hmm. Tu le fais du côté anglophone. Et en même temps, dans My Paris, tu marques la langue anglaise au Québec, mais appauvrie ou qui a des problèmes. Par exemple, le TH que tu élides, mm-hmm. Le gérondif en enlevant aussi, en montrant le côté... un anglais qui n'est pas sûr de lui-même. Alors que qu'est-ce que les francophones reprochaient à la langue anglaise, à la culture anglaise des 70, c'est une langue sûre d'elle-même, la langue du pouvoir, la langue de l'économie et tout, et le français appauvri. Tu montres que c'est peut-être l'anglais qui est dans cette position-là et qu'il faut entendre l'anglais au Québec avec cette écoute-là. Et ça, c'est très, très différent du projet de David Hommel, justement. Toi, tu travailles aussi les failles, les fissures. C'est pas... Je sais pas si je m'explique bien. Non, et c'est ça qui m'intéresse dans ton projet. Oui. Et il me semble que tu es à peu près la seule qui fait ça, enfin.
Oui. Peut-être une petite correction, si tu veux. Pour moi, la langue anglaise n'est pas appauvrie par ce mouvement-là. Et d'ailleurs, c'est une propre de la langue anglaise d'absorber tout ce qui l'entoure. Et si, en général... plus qu'on va vers l'ouest de l'île, mais maintenant c'est pas tellement le cas parce que c'est tout le topos de la population change beaucoup, mais si l'anglais si on sent pas le français dans l'anglais qu'on parle à Montréal, moi je pense que c'est ça qui serait un problème, c'est-à-dire que ça veut dire que les gens d'abord probablement ne cherchent pas à parler français, ou s'ils parlent français ne fréquente pas les lieux francophones. Et pour moi, cette position, cette posture-là égale un manque d'égard vraiment pour la majorité. Alors, c'est quand j'entends pas ce que tu appelles appauvrissement Au sujet de si c'est anachronique ou non, ce que je fais, plusieurs commentaires. D'abord, les mouvements de l'avant-garde et les moments avant-gardistes, si ou post-avant, il y a toutes sortes de termes pour ça, partent et reviennent en cycle. C'est jamais anachronique dans passé dans le sens linéaire du terme. Ça revient constamment et ça revient au moment des urgences. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, par exemple, au Canada anglais, il y a quand même un milieu de poésie expérimentale depuis une bonne décennie plus, qui deux peut-être, fort intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas la... comme au Québec, où on a quand même lâché ça pendant un moment. Je pense qu'il y a des raisons sociales très fortes au Québec pour avoir fait ces choix-là. Tu sais, je ne suis pas sociologue, là, je vais pas, mais je pense que quand même, il y avait des raisons. Il reste que moi, j'écris en anglais et... je m'identifie ou j'échange. Je suis en conversation avec en anglais avec les quand je suis en conversation en anglais parce que je suis aussi en conversation avec les écrivains francophones beaucoup. Mais en anglais, je suis en conversation avec les gens sur le continent qui font un travail formel sur la langue et sur les formes. Et ce n'est pas du tout Merci. Il y a beaucoup de gens de tout âge qui continuent. C'est vraiment assez solide, mais c'est aussi possible parce que le continent est vaste et la langue est parlée beaucoup à l'extérieur du Québec, la langue anglaise. Donc, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités de voir de rencontrer les gens différents qui font des travaux différents, que ce soit... je ne sais pas moi, les gens à New York, à San Francisco, il y a un groupe de gens fort intéressants qui travaillent dans plusieurs villes, à Vancouver, à Calgary, etc. Là, je pense que c'est particulier qui commence à se passer ici au Québec. Et puis, comme vous dites, il y a quand même le quartier, puis les gens, c'est bon ce qui se fait là. Oui.
D'autres interventions, non? OK, alors, je vous invite à remercier chaleureusement Gail Scott pour cet échange. Merci.